Você levou falta hoje no show da Renata, viu? Levou falta, foi ótimo o show. Cadê a Anaís? Cadê a Anaís?
Dans ce message du Brésil, on y entend Adriana, une amie de Recife, grâce à qui j'ai pu rencontrer des percussionnistes jouer dans des groupes de rue, dès mon premier séjour là-bas il y a 20 ans. À l'époque, j'organisais de temps en temps un bal trad dans la rue où je logeais à Olinda. Je jouais de l'accordéon, je transmettais des pas de danse et quelques chants. Un peu comme dans les ateliers à Marseille qu'on animait avec le groupe de Lustau Dao País Marseillais, une association occitaniste du quartier de la Plaine. Mon voisinage brésilien adorait l'initiative, les gens manifestaient une grande curiosité pour ces danses et pour cette langue occitane assez proche de leur portugais. Adriana, qui est musicienne et aussi enseignante, m'avait tout de suite embarqué avec elle pour transmettre des chants occitans à ses élèves collégiens de Recife. Selon elle, c'était précieux que ses élèves puissent avoir accès à ces connaissances si particulières, si peu transmises, notamment celles d'une diversité interne à l'Europe. À cette époque, je ne me sentais pas spécialement légitime à représenter la culture occitane, et c'est aussi grâce à Adriana que j'ai mesuré à quel point ce partage allait transformer toutes mes relations sur place. Avec Poplité, dans le même quartier 20 ans plus tard, à la fin d'un repas, nos camarades d'Olinda nous ont d'ailleurs demandé de chanter en occitan, de leur parler de nos carnavals, deux choses que nous adorons faire ensemble. Pourtant, en Occitanie aussi, ou devrais-je dire surtout, on peut nous-mêmes souffrir d'un manque de légitimité à faire ça. D'abord et principalement parce que nous ne sommes pas des locutrices occitanes. Pourtant, ces chants, on les aime parce qu'ils nous relient à nos lieux de vie, à une communauté festive et politique, à une culture populaire qui serait a priori la nôtre, bien plus que les musiques brésiliennes qu'on joue sur scène avec Poplité. Et la musique, elle est à qui ? Chronique marseillaise et impertinente d'appropriation manifeste. Un podcast réalisé par Anaïs Vaillant et proposé par la FAMDT.
Les âmes quand t'écoutes du casu n'envoies éclair nous mais ce non soit n'appelait pas mon bon amusa.
Et là aussi grosse réflexion sur le fait que des gens qui n'ont aucune connaissance de l'occitan veulent à tout prix chanter des chants occitans. Toujours j'ai eu tendance à inclure de l'occitan dans les consignes, dans un certain nombre d'informations que je fais passer, mais aussi avec certains groupes qui étaient des groupes que je voyais avec plus de récurrence, toujours j'ai eu à cœur d'expliquer en quoi le fait de parler la langue, pour moi, était absolument indispensable, parce que le chant, je l'entends moi, comme un moment de sublimation de la langue. Qu'est-ce qu'on peut sublimer à part son ignorance, si jamais on a ce matériau qu'on ne maîtrise pas. Et le matériau, c'est la langue. Chanter, pour moi, c'est vraiment assumer un sens à ce qui est dit.
Vous venez d'entendre Manu Théron et un extrait de La Libertat, un chant dans lequel la liberté apparaît sous les traits d'une femme nue, d'une muse à la fois guerrière et caressante. Ce chant traverse de nombreuses chorales militantes, mais récemment, certaines d'entre elles l'ont enlevé de leur répertoire pour des raisons de refus d'instrumentalisation du corps féminin et de sa nudité. Nous avons rapidement discuté avec Manu des débats, très présents sur les réseaux sociaux autour de cette affaire qu'il avait rendue publique, et plus largement de l'engouement des chorales pour les chants en occitan. Plus que des débats, ce sont des critiques d'appropriation culturelle. Si chanter, c'est porter un propos, chanter une langue qu'on ne parle pas, c'est alors passer soi-même à côté du sens, puis potentiellement altérer le chant lui-même. Le débat, récurrent dans le milieu occitan et plus largement dans celui des musiques traditionnelles, se cristallise sur l'adaptation ou la suppression des paroles qui ne colleraient pas avec les valeurs du cœur. Entre les présomptions d'ignorance et les tentatives de transformation sociale, des conflits très vifs persistent donc autour de la pratique de chants populaires et traditionnels. Cet épisode se propose d'explorer les réflexions déjà en acte dans le monde de la transmission et de la pratique amateur. Troisième chronique, les mamelles de la liberté et les figures de la colonialité, ou comment les questions d'appropriation surgissent dans les cultures populaires. Avec le chanteur Lorenzo Valera, les témoignages des amateurs de chant et de danse traditionnelle Elio et Abel, et l'historienne Lisselle Quiroz. Pour compléter l'interview de Manu Théron, je l'ai suivi à son atelier de chant qu'il donne depuis de nombreuses années dans le local de l'Oustao d'Ao País Marseillais, une association occitaniste du quartier de la Plaine. L'atelier est très fréquenté par des habitants et habitantes du quartier, majoritairement blancs, âgés entre 20 et 40 ans, plutôt queer et comme beaucoup d'adhérents de cette association, a priori sensibles aux cultures minorisées. Beaucoup ne parlent pas encore l'occitan mais s'y intéressent. L'atelier de chant du mercredi attire bien plus de monde que le cours de provençal du jeudi. On peut imaginer que c'est un endroit idéal pour un premier contact avec la langue. J'y ai rencontré Elio et Abel, deux participants qui étaient OK pour discuter avec moi de leur relation au chant et à la danse trad, depuis leur endroit d'apprentissage, de découverte ou de redécouverte. L'un a découvert les musiques dites traditionnelles sur le tard, après avoir fait les beaux-arts et joué de la pop musique. L'autre a grandi avec les danses pour s'en éloigner et y revenir adulte. Leurs deux parcours, a priori opposés, les ont pourtant réunis à Marseille dans un bal ou un atelier de chant occitan pour des raisons à la fois culturelles, artistiques et politiques.
Je peux comprendre à la fois l'attrait de ces musiques, d'une culture qui a comme disparu ou presque et qu'on a envie de se réapproprier pour la faire vivre et ça peut être vu comme un acte de résistance et tout ça. Mais en face, quand tu t'intéresses de près à cette culture, à toutes les spécificités, je sais pas, de ce qu'il y a dans les chants traditionnels, par exemple, le fait que c'est des chants qui paraissent de l'extérieur très répétitifs, mais en fait c'est par l'ornement que tu lui redonnes sa richesse et tout ça, bah des fois dans des chorales où t'es plein ou quand c'est passé un peu à l'arrache ou si on oublie de te transmettre cette donnée-là ou si on n'a pas réussi à te la faire sentir dans ton corps, dans ta voix, bah en fait tu vas juste uniformiser tout ce que tu fais. Et mais moi ça me questionne vachement la tension entre qu'est-ce qui nous amène à ces musiques-là et comment on les transforme et comment toute la question de l'appropriation.
C'est pas évident parce qu'en fait on est beaucoup à ne pas avoir les codes et les clés pour savoir qu'est-ce qu'il y a entre les lignes des textes dans les chansons. Et donc des fois, dans ce qu'on comprend, on a envie d'aller supprimer des parties en mode « ça ne nous paraît pas OK ». Mais en fait, on n'a pas cette fameuse compréhension qui nous permettrait de savoir qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. En tout cas, de dire « bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop de chanter des chants hyper sexistes ou des trucs comme ça ». Moi, j'ai l'impression qu'on manque plutôt d'outils à cet endroit-là. Où sont les personnes qui peuvent nous aider à pouvoir plutôt réécrire les chants et s'il y a besoin de réécrire à des endroits? Et en fait, la traduction, pour moi, ça vit, donc ça paraît un peu évident que ça évolue. Et en fait, elle évolue un peu depuis toujours, parce que des fois, des gens, ils oublient les textes, et donc ils retransforment avec les... Voilà, avant, c'était pas enregistré, donc on peut imaginer que ça bougeait un peu tout le temps, quand même.
Et en même temps, moi, j'ai appris que dans l'histoire un peu des collectages, de comment on allait chercher ces musiques-là, il y a eu notamment beaucoup de curés ou de prêtres, enfin, d'hommes d'église, quoi, qui avaient les accès à l'écriture et à aller chez les gens collecter ces chansons, et qui, en fait, ont décidé de ne pas garder certains passages parce qu'ils les trouvaient dégueulasses. Donc, toutes les parties sur le caca, toutes les parties, voilà. Et donc, ils ont déjà fait un travail d'affûtage, comme ça. Est-ce que nous, vraiment, on est légitime à se faire garant d'une morale de... cette chanson, elle parle de viol, je trouve ça hyper violent, j'ai pas envie de chanter ça, mais est-ce que j'assumerais d'enlever ce paragraphe complètement et de le faire disparaître de cette... Parce que c'est aussi une histoire. Dans mon approche de la musique, j'essaierais plutôt de... soit de pas chanter des chansons qui me font violence, soit si je le fais, de trouver un moyen créatif de la remettre dans son contexte ou de proposer un contre-pied ou plutôt de rajouter un couplet mais de pas supprimer. Enfin, en tout cas, ça me questionne vraiment beaucoup et notamment parce que j'avais vu ce groupe de musiciennes où elles faisaient ce travail d'essayer d'enlever des choses qui les dérangeaient. Elles connaissaient pas tous les symboles, les trucs qui sont parfois cachés. Par exemple, il y a des expressions genre quand l'eau elle s'est troublée, on sait qu'il y a eu un rapport sexuel, voire ça peut parler d'infanticide. Mais du coup, elles chantaient des chansons qui étaient hyper violentes symboliquement, mais elles savaient pas forcément. J'ai pas la réponse à ça. Moi, quand je transmets des chants en stage, je me pose toujours la question de est-ce que les chansons que je transmets, elles risquent de faire violence à des gens. J'ai pas envie de ça. En même temps, j'ai pas envie de chanter que des chansons sur les petites fleurs dans les chants, quoi. Parce que c'est des chansons qui parlent de la vie, quoi. Nous, dans la vie, il y a aussi des fois de la violence.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement de chants, donc on pourrait faire des choix. Déjà, de dire en fait. En stage de chant, souvent, on est quand même accompagné à savoir qu'est-ce qu'on nous transmet. Il y a des gens qui viennent nous faire une petite traduction derrière. Je m'accompagne de gens envers qui j'ai confiance aussi, quoi. Parce que je sais comme ça que je vais chanter des trucs qui vont me convenir.
Quand j'étais en position d'apprenante, quoi, avec des gens qui ont choisi de me transmettre des chants, je me souviens notamment d'un chant sur les métamorphoses où c'est Catherine, mamie, voilà, un mec qui veut séduire une fille et en fait c'est horrible parce qu'elle a pas envie et du coup elle se transforme en biche. Et si tu te transformes en biche, je me transformerai en chasseur, donc elle se transforme en poisson, donc qui se transforme en pêcheur. Et la personne qui nous transmettait trouvait ça hyper beau parce que c'est vrai, c'est poétique, tu traverses toute la cosmogonie, le monde et tout ça. Sauf qu'on était un groupe majoritairement plutôt de filles, quoi, dans la salle, et en fait au bout de plusieurs heures, on était plusieurs à qui ça faisait violence de chanter ces paroles. Même si on n'était pas occitanophone, connaître les paroles qu'on chantait et les chanter. En fait, on n'en pouvait plus de cette histoire de cette fille qui n'arrivait jamais à s'en sortir. Et c'est quand même très violent parce qu'à la fin, elle dit « si tu continues, je me tuerai ». Quoi. Et il dit « je me transformerai dans la terre pour recouvrir ton cercueil ». En fait, le texte, je le trouve très beau. Et avec du recul, je me dis « il est magnifique ». Et des fois, j'ai envie de le réinterpréter, mais à ma façon. Mais ce que j'ai trouvé dur, c'est quand on a dit à la personne qui nous l'apprenait, on nous a tout de suite renvoyé bouler en disant « mais ça va, c'était pas la même époque, il faut se détacher des choses ». Et donc en fait, tout d'un coup, dépolitiser une problématique. Alors qu'en fait, on pourrait se dire, mais cette chanson, déjà, elle parlait des gros lourds qui saoulent les filles et qui sont prêts à tout pour les saouler. Et voilà, ça existait déjà à l'époque, en fait. Le monde n'a pas changé complètement dans ce sens-là. Et au final, je trouvais que ce qui était le plus violent, c'était ça. C'était le rapport entre nos désaccords dans comment on interprétait le texte que le texte lui-même, en fait.
C'est Clume qui a réécrit une chanson où normalement c'est la mariée qui se fait toucher par tous les invités, ouais, c'est ça. Qui a réécrit la chanson en disant que c'est elle qui se touche, quoi. Mais qui a expliqué, qui a fait la démarche d'expliquer.
Il dit voilà, il y a les musiciens qui ont le pouvoir sur scène de faire passer des messages, mais comment nous, dans les pratiques, en fait, entre nous, quand on a envie de chanter, on peut continuer à faire vivre tout ça, quoi. Ouais, je pensais à une chanson de Koukagne, Janet, qui c'est une figure hyper connue de la bergère qui se fait étendre sur l'herbe dans l'ombre de la prairie par un gars, quoi, et c'est une métaphore du viol. Et du coup, elles ont choisi de dire qu'elle choisit de s'allonger avec lui dans l'herbe. Et c'est juste une toute petite tournure de phrase qui change, mais tout le sens de la chanson change.
Je reste sur les valeurs du bal, pour moi c'est très net, les valeurs du collectif, le fait qu'on est mélangé en fait, que moi j'ai commencé les premiers baltrades, nous on apprenait ça dans la cour d'école, et après on allait partager ça avec nos grands-parents, ou les grands-parents du village en bal sur les week-ends. En vrai c'est clairement politique les valeurs du collectif, ça c'est pas politique. Et donc la langue, c'est, pour moi c'est profondément lié en fait à la tradition orale, pour moi je peux pas les défaire en fait. J'arrive pas. Moi, avant que ce soit politique, le provençal, ça fait partie de la famille de mon père. Je me suis rarement intéressée à la langue parce que pour moi, déjà, d'avoir un pied dans la danse, c'était avoir des valeurs autour des traditions. Et la langue, le fait de m'y intéresser, c'est quand même assez neuf, quoi. Ça fait un ou deux ans que je me dis, ah, quand même, ça fait partie entièrement de notre culture, quoi. Je pense que c'est aussi politique, bah, parce que ça fait du lien aussi avec notre histoire. Moi, j'ai un parcours qui fait que j'ai beaucoup traîné dans le milieu trad jusqu'à mes 19 ans. Et j'en suis sortie parce que j'ai vécu des violences au sein du milieu du baltrad, quoi. Et j'y reviens depuis peu pour pouvoir reprendre mes marques. Et je pense qu'il y a des endroits où le stéréotype, il ment pas. Il y a encore des schémas extrêmement genrés, quoi. Même si je trouve que ça a tendance un peu à bouger. Et en fait, il y a des personnes queer qui ont débarqué. C'est ce qui a fait que moi, j'y suis revenue. Moi, je suis personne queer, mais depuis toujours. Mais il y a 10 ans, les codes des personnes queer dans lesquelles on peut se reconnaître n'étaient pas représentées dans le milieu du baltrad. Et c'est ça que moi, je trouve intéressant ces dernières années, c'est que les codes à l'intérieur du baltrad, ils ont tendance à vraiment beaucoup bouger. Aussi dans le fait qu'il y a des jeunes qui se mettent dans les organisations, les groupes d'orga bougent aussi. Et je trouve que ça donne un peu une respiration à pas mal d'espaces trad. Et après, moi, je choisis maintenant mes baltrad, comme le gros bal du Vercors ou Combo Ross, où ça brasse un peu plus de style, de personnes. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup des personnes qui avaient des chorales militantes, qui ont découvert le milieu du baltrad et qui s'en sont emparées. Je pense en 2023, au moment où j'ai décidé de remettre un peu les pieds dans le festival trad, on était beaucoup, principalement des personnes queer qui étaient là. Et on chantait des chants en occitan, mais aussi en français. Peut-être que j'y étais à l'intérieur à un moment et que je me sentais seule. Il y a eu quelque chose qui a bougé, quoi. Et comment ils sont arrivés? Ou comment ils se sont assumés?
Bah, quand même, on est d'accord qu'on parle plutôt des traditionalistes de gauche, quoi, depuis le début de la conversation, parce que je sais que, voilà, à Marseille, il y a vraiment des... Par exemple, des associations, on refuse de travailler avec eux parce qu'on sait qu'ils sont vraiment des viviers pour le Rassemblement National, quoi. Donc pour moi, clairement, je parle pas du tout du même milieu, mais il n'empêche que c'est moi, quand j'ai débarqué dans le bal et que j'ai vu, je sais pas, plein de mecs en jupe, plein d'hommes danser ensemble, des meufs danser ensemble, des gens qui chantaient des chants féministes et tout, je me suis dit, ah ok, en fait, on peut avoir un rapport avec la tradition, l'ancien, vouloir d'être fier d'une culture locale, mais être de gauche.
Appropriation ou réappropriation participe ici d'un même mouvement de transformation culturelle. Le matériau souple de la tradition accueille le désir de faire groupe, la curiosité pour l'histoire des lieux et des vaincus. C'est une relation active et performative que les nouveaux amateurs de polyphonie ou de baltrade instaurent avec les traditions populaires. On en fait un lieu familier d'empouvoirment et de créativité. On réduit la distance et l'étrangeté, on s'immerge, on s'imprègne, on transmet à son tour. Parler depuis ces espaces marseillais permet d'ancrer la réflexion sur l'appropriation culturelle de façon plus générale et moins accusatoire. Comme nous l'explique Elio, chanter ou danser occitan, c'est connaître un répertoire local, c'est ne pas se contenter d'exotisme, d'imitation superficielle. Certaines chorales au croisement des chants de lutte et des chants du monde peuvent se référer depuis mars 2026 à une brochure à l'usage des chanteuses, des groupes et des velléités de porter des chants d'ailleurs.
L'appropriation culturelle dans le chant et les chorales, outil de réflexion. Chanter en chorale, c'est un partage. C'est raconter les histoires vécues et écrites par d'autres, le plus souvent. Ça peut être porter un message, célébrer, se souvenir, revendiquer, dénoncer. C'est aussi se sentir ensemble, exister en groupe, se relier, vivre l'harmonie le temps d'un chant. C'est parfois chanter un répertoire publiquement, alors c'est aussi une question de responsabilité. La question n'est pas de savoir si tu es une bonne personne, il ne s'agit pas de toi, de dire que chanter des chansons d'ailleurs c'est bien ou c'est mal, de savoir si tu as le droit ou pas, ou de détruire l'idée de l'interculturalité. Mais la question est comment éviter au maximum de perpétuer du racisme malgré nous dans nos chorales. On peut apprécier et rendre hommage à d'autres civilisations de manière respectueuse, en commençant par se poser des questions plus profondes. Par exemple, quel passif y a-t-il entre ma culture et telle autre? Quel stéréotype négatif inconscient et quelle conviction raciste est-ce que je nourris à l'égard des représentants de cette culture? De quelle manière est-ce que je soutiens, protège et encourage les représentants de cette culture? Est-ce que je comprends l'importance historique et le caractère sacré de cet élément culturel aux yeux de cette civilisation? Pourquoi est-il important pour moi de m'approprier cet élément culturel au risque d'offenser les représentants de cette civilisation? Si j'en tire un bénéfice financier, puis-je redistribuer une partie de cet argent aux représentants de cette culture? Cette brochure propose de se questionner au prisme du racisme. Mais il nous paraît important de dire que se poser la question de l'appropriation culturelle n'exclut pas la nécessité de s'interroger aussi sur le contexte social d'un champ et d'avoir une lecture de rapports de classe ainsi que des autres rapports de domination, validistes, sexistes, LGBTQIA+, phobes, etc. Finalement, la démarche peut être similaire. Il s'agit d'avoir conscience d'où vient un champ, de quelle réalité il témoigne, quel est mon lien à cette histoire, qui sommes-nous pour le chanter, à qui on le partage et pourquoi on le chante.
L'existence d'une telle brochure souligne deux points importants. Le premier, c'est que les collectifs se questionnent et se remettent en question. Le second, c'est qu'il est visiblement encore bien nécessaire de mettre les choses au clair sur les privilèges et le consumérisme exotique et raciste dans les pratiques culturelles. En pointant d'autres rapports de domination que celui de la race, comme la classe et le genre, la brochure nous invite à retourner à une définition plus globale du phénomène d'appropriation culturelle. De la même manière, j'ai décidé de me tourner vers l'historienne péruvienne féministe décoloniale Licelle Quiroz.
De l'appropriation culturelle, il faut partir de ce que sont les savoirs. Les savoirs circulent. Le propre, je dirais, des savoirs est qu'ils circulent, qu'ils soient partagés, qu'on apprenne des autres, donc on reçoive des savoirs et qu'on distribue aussi du savoir. Et ça, ça devrait être dans un monde, on va dire, un peu idéal. Enfin, d'ailleurs, c'est la base, c'est ce qu'on fait en tant qu'êtres humains, de recevoir et partager. C'est du don et du contre-don. En revanche, l'appropriation culturelle, c'est lorsque, dans ce fonctionnement qui serait plus ou moins horizontal, on instaure de la verticalité et de la domination. Les savoirs ne vont plus circuler de manière libre, mais on va les prendre et les utiliser sans redistribuer. En d'autres termes, l'appropriation culturelle pour moi est lorsque des membres d'un groupe dominant vont prendre des savoirs qui effectivement circulent, qui sont là un peu libres, disponibles, parce que c'est le propre de ces savoirs, de circuler, mais on va les prendre sans non seulement demander l'autorisation, même de dire aux personnes qui sont les productrices de ces savoirs qu'on va les prendre, mais surtout, on va les prendre pour notre propre bénéfice. On découvre un genre musical, la musique andine, le wine, les flûtes de pan, et je vais prendre ça, je vais m'initier et partir avec ces savoirs en les présentant, par exemple, ici en Europe, en faisant des concerts ou en faisant des petites présentations ou en parlant, etc., ou en écrivant même en tant qu'universitaire sur ça, sur ce que j'ai appris, sans attribuer à ces personnes, en les invisibilisant et en recueillant des bénéfices qui peuvent être soit parce que je fais payer mon concert, soit parce que je suis connue, soit parce que j'ai écrit ma thèse qui va donner une visibilité, une reconnaissance en tant que spécialiste. Bah, ces formes-là, pour moi, sont de l'appropriation culturelle parce qu'il n'y a pas de retour et jamais, je dirais, d'où je tiens ou je peux juste nommer la communauté dans les communautés andines sans donner la source concrète, parce que je l'ai tenue ou je l'ai eue quelque part physiquement ou de quelqu'un physiquement. Et ensuite, sans que les bénéfices reviennent à celles et ceux qui étaient à l'origine de ces savoirs. Que je publie, par exemple, mon article sans revenir à la source première pour présenter ce que j'en ai fait de ces savoirs qui m'ont été partagés. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'est de l'appropriation, parce que ce n'est pas une circulation, il y a donc à différencier pour moi l'appropriation culturelle de la circulation des savoirs. Les savoirs circulent, en revanche, ça vient d'un point de vue situé de pouvoir, c'est-à-dire d'un dominant ou d'une dominante ou d'un groupe dominant, sur des subalternes. Il y a de l'appropriation, quand on le prend, on ne rend rien et on invisibilise complètement la source d'où est tenu ce savoir ou du point depuis lequel a émergé ce savoir. Donc pour moi, il y a toujours ce rapport de domination entre celui qui prend le savoir, l'utilise, par rapport à celui dont on prend le savoir, d'où part le savoir, d'où émane le savoir. La notion d'appropriation culturelle, je sais qu'elle va être contestée parce que tous les concepts qui dévoilent ou qui entrent sur cette façade, ces masques de dédominants, de faire... d'être plutôt dans la neutralité. Enfin, c'est toutes ces idées d'être neutre, de ne pas avoir... Je ne sais pas vraiment les arguments pour l'appropriation culturelle en dehors de celui de les savoirs circulent et on a le droit de les prendre. Mais c'est comme dire la race n'existe pas. Oui, mais bon, on n'en est plus à ce stade-là. Enfin, je n'ai pas envie de débattre à titre personnel sur ces choses-là parce que je pense que c'est de la perte de temps, c'est nous fatiguer. Enfin, là, c'est la militante et la féministe décoloniale que je suis. Je me dis à un moment, bon, j'ai pas envie de débattre sur des choses qui vont nous faire perdre du temps. Donc, je suis très intéressée par ce que vous me dites, mais je ne sais pas s'il faut tellement lutter contre ou se battre contre des moulins à vent quand c'est de l'espace de la réaction.
Bon, à ce moment-là, je vous avoue que cette entrevue sonne pour moi un peu comme un malentendu. Je sens bien que ma recherche ne lui paraît pas légitime, que cette enquête serait comme un masque de neutralité depuis ma place dominante, celle d'une blanche occidentale, que mon propos appartiendrait à la sphère de la réaction et donc d'un désir de retour en arrière. Ce léger jugement dans son discours, un peu sous-entendu, n'appelle évidemment aucune réponse et aucune défense. Il y a aussi que, dans cette situation d'interaction, c'est quand même elle qui est professeure d'université reconnue et médiatisée, et moi, l'anthropologue précaire et saltimbanque brasilophile. Malgré ce qu'elle appelle clairement une perte de temps, nous avons cependant accepté toutes les deux de prolonger l'interview, notamment sur la notion de colonialité.
La modernité occidentale a distingué, séparé des choses qui, chez des peuples, on pourrait dire des cultures, moi je dirais plus des peuples non occidentaux, des espaces qui n'étaient pas séparés et qu'on pourrait dire la culture. Chez ces peuples, il y a des savoirs qui sont pas séparés en genre comme la modernité occidentale va l'imposer. En l'occurrence, la danse. Le chant et la spiritualité ne sont pas séparés. En perspective décoloniale, moi je vois comment la colonialité a créé des espaces séparés où il n'y en avait pas. On se tue à dire que justement avec colonialité, on rompt tout ça, on n'est pas en train de parler de colonisation, on n'est pas en train de parler de colonialisme ou néocolonialisme. Tout ça, c'est de la colonialité. Quand vous dites colonialité, que ce soit à La Réunion, en Auvergne ou Cameroun, on comprend qu'il y a un mécanisme global de domination qui inclut la classe, qui inclut la race et qui inclut le genre. Dans l'histoire coloniale, il y a aussi la division, ce qui est de la culture légitime et de la culture subalterne. Ce qui est le plus marquant dans l'histoire de la culture en général, c'est cette différenciation qui va de pair avec ce cloisonnement dont je parlais. On crée des hiérarchies entre ce qui est de la musique et ce qui n'est pas de la musique, ce qui est de la danse et ce qui n'est pas de la danse. La distinction est introduite constamment dans la culture pour hiérarchiser. Et une des manières privilégiées de la modernité occidentale, c'est d'introduire le chiffre. C'est à partir du moment où dans un espace musical ou de danse, mais dès qu'on introduit le comptage, donc la partition, donc les temps, ça c'est de la colonialité. L'appropriation culturelle, c'est pas seulement je prends, c'est qu'ensuite on impose la norme du dominant. Il n'y a jamais d'égalité. La colonialité, elle chasse toute forme d'égalité. Donc il doit y avoir des formes culturelles supérieures à d'autres, considérées comme plus raffinées, comme plus jolies. C'est toujours la colonialité, elle divise. C'est ça son fonctionnement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle se maintient. Si on veut lutter aussi contre l'appropriation culturelle, c'est qu'il faut en même temps lutter contre la colonialité du savoir. Je crois que à l'appropriation culturelle, il faut associer une autre notion, cette fois-ci, de la théorie décoloniale, celle du lieu d'énonciation. C'est-à-dire que la rigueur intellectuelle fait qu'on reconnaisse son lieu d'énonciation qui n'est autre chose qu'un lieu de pouvoir. À partir du moment, il me semble, où on reconnaît son lieu de pouvoir, on peut mieux ne pas tomber dans les pièges ou les méandres de l'appropriation culturelle. Pourquoi ? Parce que si déjà vous êtes conscient que vous venez d'un espace qui n'est pas celui d'origine et vous le reconnaissez comme tel, c'est-à-dire la question n'est pas de se dire tous les jours, s'auto-flageller en disant « mais ouais, je suis coupable, oh, je joue ou je veux chanter comme je sais pas qui, Paco de Lucía ». Si en revanche on dit « je suis une personne qui vient de cette trajectoire-là, j'ai fait le conservatoire, je sais pas, je peux être même de l'opéra, j'en sais rien, et je suis fascinée et ça m'intéresse beaucoup, je fais une proposition à partir de ce lieu-là, de mon lieu ». Puisqu'on a toujours dans l'appropriation culturelle un fonctionnement vertical, pour combattre ou rompre l'appropriation culturelle, bah, il faut dissoudre ce lien vertical. Si vous, sachant que vous êtes de l'orchestre, de la philharmonie, que sais-je, vous avez une position quand même dans l'espace culturel assez élevée, mais que vous dites « je vais sortir de là parce que moi je suis intéressée par cette musique et je veux apprendre et je veux me mettre donc, au niveau de tout le monde », enfin, vous venez pas en « moi ». À la philharmonique, je vais faire un spectacle où je vais mettre en scène, je vais utiliser... Il y a une grande différence. Si vous, depuis votre pouvoir, vous dites « je vais proposer ce spectacle et je veux qu'il y ait tel chanteur de flamenco, mais je vais lui faire dire ce que moi je veux, ma composition à moi, le transformer, l'obliger, le payer et à faire ce que moi je veux », c'est pas du tout la même chose que « je veux explorer ce que fait en moi cette musique parce que je l'aime et je descends de ma position ou je sors de ma position pouvoir pour essayer justement d'entrer dans ce qu'on a dit qui était la circulation, disons, originelle ou plus primitive. De partage. Je peux aller dans un groupe et proposer aussi ce que j'aime moi, que je sais, ce qui est de ma propre culture d'origine, et on rompt complètement l'appropriation culturelle.
Lycelle Quiroz nous donne ici des outils concrets pour rompre le phénomène négatif d'appropriation. Identifier le lieu d'énonciation du pouvoir, la résistance à l'imposition des normes et l'horizontalité de la circulation culturelle, soit le partage pas seulement de bénéfices, mais tout simplement d'éléments culturels. Mais comment montrer une danse de chez soi quand on n'en connaît pas ? Comment partager ce qu'il nous faudrait d'abord réapprendre ? C'est-à-dire quand la colonialité a déjà gagné, comme me l'a confié Lycelle Quiroz. Est-ce que montrer la danse des canards, ce n'est pas finalement une tentative honnête de partager quelque chose ? C'est en tout état de cause reconnaître ce vide. Ce que Jérémy Piola a analysé comme une forme de mépris, on pourrait aussi l'analyser comme une forme d'humilité, voire d'autodérision. Et est-ce que pouvoir montrer une mazurka ou une bourrée ne serait pas quelque part une forme de privilège interne à l'Occident ? Finalement, réapprendre à chanter, à danser ensemble des répertoires locaux n'appartenant pas à la culture légitime bourgeoise, participe d'un travail sur nos privilèges blancs, mais aussi sur nos déculturations. Ce « shadow work », ce travail de l'ombre décoloniale, consiste à prendre conscience de nos lieux d'énonciation, de l'imposition des normes et de la nécessité de ce partage horizontal. Cela incite potentiellement à ne plus s'approprier de façon aléatoire et superficielle les cultures exotiques comme des réservoirs disponibles, mais plutôt à contextualiser, repolitiser et connaître en profondeur nos chants et nos danses, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs.
Dans les chorales de chants du monde et de chants de lutte, beaucoup de chants proviennent de cultures et de traditions diverses. Ils racontent parfois des histoires qu'on n'a pas vécues, des traditions dont on ne connaît pas toujours le sens. Et il arrive qu'on chante dans des langues qu'on ne comprend pas, dont on écorche parfois la prononciation. Une chorale, c'est aussi un groupe, avec une diversité de vécus et de liens à l'histoire collective. On ne porte pas tous et toutes les mêmes traces de l'histoire. Selon le degré de connaissance que l'on a de notre histoire familiale ou culturelle, on n'a pas les mêmes prismes de compréhension. Selon comment on hérite de l'histoire collective, les questions à se poser ne sont pas les mêmes. C'est une question de responsabilité individuelle qui forme une responsabilité collective. Alors c'est forcément complexe. Les chants, c'est aussi une pratique de l'oralité vivante. Ça vit à travers les personnes qui les véhiculent. Ça existe avec ce qu'on en fait. Les cultures traditionnelles sont des organismes vivants et en constante évolution. Si on se pose la question, c'est parce que nous sommes tous et toutes issus d'une société construite, entre autres, par le colonialisme et la hiérarchisation des peuples selon des critères racistes. Nous vivons collectivement les conséquences de ces systèmes, que l'on en bénéficie ou qu'on les subisse. Tout le monde est concerné. Nous sommes imprégnés par l'histoire coloniale depuis notre naissance. Pour arrêter de perpétuer sans fin la violence, il faut faire un pas de côté. S'informer, comprendre, ressentir, discuter, agir. Avoir le courage et l'humilité de se bousculer, de se poser des questions, d'être mal à l'aise. Prendre le risque de se tromper, de devoir s'excuser et réparer si on blesse. Et tenter de trouver des éléments de réponse et des manières de changer nos comportements.
Pour étayer ces questionnements et les vivre, je suis un peu sortie de Marseille, visiter le chanteur Lorenzo Valera à Forcalquier, où il a créé avec des camarades des veillées chantées hebdomadaires. Lorenzo est d'origine milanaise, installé en France depuis une dizaine d'années. Il se produit sur scène avec les groupes Courmaya, Le Chant des Grenouilles, Moule la Terre et transmet régulièrement au sein de chorales. Depuis quelques années, la question de l'appropriation surgit régulièrement en stage de la part des chanteuses. Elle fait désormais partie intégrante des formations collectives dans le registre des musiques populaires et traditionnelles.
Quelque chose que je réponds souvent aux jeunes qui commencent à imaginer des transmettre mais qui ne se sentent pas légitimes. Qui es-tu ? Tu es personne, comme tout le monde. Tu es personne. Mais comme tout le monde, tu connais des choses et tu peux les transmettre. Tu seras honnête par rapport à ce que tu peux transmettre. Tu seras lucide par rapport à ça et tu apprendras en le faisant. Moi, j'aime bien un principe, c'est un mot qui a été inventé par une géographe qui enseigne à la Sorbonne, Rachele Borghi, et qui a écrit un super livre qui s'appelle « Décolonialité et privilèges ». Elle parle de sbaglieranza. La sbaglieranza, c'est la possibilité qu'on se donne de se tromper. Mais on fait quand même, on ne s'arrête pas parce qu'on a peur. Et si on fait quelque chose de mal, on s'excusera. On reviendra en arrière. Pour répondre à ces questions de légitimité, de respect par rapport à d'ailleurs, l'ailleurs et l'autre, ça commence où ? Et c'est un gros questionnement en ces moments pour moi, parce que moi je suis arrivé en France, évidemment ça m'a convenu de me présenter comme le chanteur traditionnel italien. C'est une connerie, je ne suis pas un chanteur traditionnel italien. Moi j'arrive d'un quartier de Milan, je n'arrive pas d'Italie. Et c'est normal que la perception qu'il y a par rapport à moi, normalement en France, c'est que j'ai plus de légitimité à chanter des chants siciliennes que Laila, qui chante avec moi dans Terra Canto, qui arrive du Trièves. Et pourtant, on a dû faire exactement le même travail d'étude de la langue, du contexte. Sauf que moi, j'ai une espèce de légitimité acquise. C'est mystification. Je ne suis pas du tout plus légitime que d'autres. Par contre, si je dois imaginer à quel est mon territoire d'appartenance, déjà, ce n'est pas un territoire géographique, c'est un territoire idéal. Évidemment, il y a une démarche politique pour moi. Je chante du chant populaire parce que pour moi, c'est la liaison avec ce qu'on appelle dans Terra Canto le monde des vaincus. Donc le monde des gens dont la voix a été étouffée. Donc c'est une précise choix d'une géographie humaine plutôt que territoriale. Le d'ailleurs, oui, c'est justement quand c'est vraiment une langue complètement différente. Parce qu'après, le concept aussi de nuances parmi les dialectes, c'est intéressant. Une frontière, c'est binaire. Ou t'es là, ou t'es ici. Mais en réalité, si je regarde toutes les chansons que je connais des Alpes, c'est des nuances de langue. Il n'y a pas un moment où la langue se transforme.
Vai per la Francia.
Les journaliers qui chantent en cassant des pierres en Sicile, évidemment, il y a un hiatus social et humain, qui fait que je ne peux pas m'approprier simplement de ce chant et le transformer en objet des scènes sans me poser plein de questions. Qu'est-ce qu'on veut préserver de ce collectage et pourquoi ? Quelles sont les valeurs intimes, profondes de cette musique que nous, on veut transmettre ? Quelle est la nouvelle fonction qu'on décide de donner à cette musique ? Le chant qui a un sens parce qu'il est lié à une fonction, peut-être qu'on peut le refonctionnaliser. J'ai un exemple que j'adore, la bataille de la plaine. La gentrification à la plaine, place Jean Jaurès, des collectifs du quartier se mobilisent avec une lutte que malheureusement on n'a pas gagnée. La plaine a été refaite, mais les batailles ont de la valeur même quand ils n'ont pas gagné. Quand la nouvelle est arrivée que voilà, le projet se faisait, ils ont organisé trois manifs. La manif du deuil, les funérailles de la colère, mais la manif du deuil c'était les funérailles de la concertation. Marseille, que c'est la ville du carnaval de la plaine, avec beaucoup de savoir-faire, il a fait un funérailles avec un cercueil et il voulait l'accompagner avec un chant de funérailles. Donc ils m'ont demandé, la lutte enchantée, les gens qui étaient autour de ça, de leur transmettre un chant de deuil. Et moi je lui ai transmis all'aria all'aria. C'est un chant sacré, c'est un chant de la passion, des rituels de la Saint-Vincent, hyper poignant. Et je leur ai transmis ça. Bon, bien sûr, il y avait tout le monde qui dit « Ah oui, il faut parler de Jésus, de Marie, ben, vous parlez de ce que vous voulez. Moi, je vous transmets la chanson. » Le jour du cercueil, il y avait aussi une fanfare qui accompagnait cette chanson. Je me disais « Mais c'est génial, c'est incroyable, cette chanson. » J'imagine les ethnomusicologues qui devraient étudier ça dans 50 ans, comment ça est arrivé de petits villages du centre d'Italie jusqu'à la plaine pour une manif. Après, j'ai découvert que cette chanson est devenue un chant de carnaval, avec des paroles en occitan modifiées. Ça, pour moi, c'est génial. Il y a une passation de fonctions. C'est pas un chant qui a été écouté par quelqu'un qui a dit « Tiens, je vais en faire un tube pour vendre mes disques ou pour cartonner au concert, etc. » C'est un chant qui a évolué dans son cheminement historique, social, et qui a gardé une fonction. C'était un rituel de la Semaine Sainte. Il est devenu un rituel des militances dans une manifestation. Il est redevenu un chant d'un rituel lié au carnaval, c'est-à-dire les mêmes rituels qui, avant, étaient les rituels qui sont devenus les rituels de la Semaine Sainte. Oui, c'est une appropriation. Ou alors, c'est une évolution, en plus des traditions orales, parce que tout est arrivé de façon orale. Pour moi, changer les paroles... C'est une forme d'appropriation, bien sûr. Même l'argument que la culture traditionnelle a toujours évolué, donc pas de souci de tout changer tout de suite. Oui, d'accord, mais attention, la culture traditionnelle n'évoluait pas en une résidence d'une semaine. C'était pas ça le mécanisme d'évolution de la culture traditionnelle. C'était des ajouts collectifs qui se faisaient dans les temps et dans les voyages géographiques. Il n'y avait pas quelqu'un qui disait un jour « Je vais bien montrer comment je sais bien écrire de la musique plus originale que ça ». Parce que l'originalité, c'est l'obsession de l'artiste d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je me sens un peu à côté de ce débat parce que moi, j'aime bien me définir pas un artiste, plutôt un artisan. Je fais les minima possibles de création en réalité. J'essaie de trouver la façon de rentrer dans cette esthétique magnifique qui a cette capacité de synthèse d'un sentiment collectif qu'aujourd'hui, on a complètement perdu. Comme tu le remarques, de plus en plus, il y a des gens qui se posent la question. Ça, c'est très bien. Parfois, de façon même tendue, parce qu'on part du présupposé qu'on est des colons qui s'approprient. En Italie, on a moins de peur par rapport à ça. Parce que la colonisation en Italie, ça a été un échec retentissant. Faire les comptes avec les colonisations, c'est quelque chose qui n'est pas si urgent comme en France. Parce qu'être né et grandi dans un pays colonisateur dans le passé et dans le présent, et aussi tirer les avantages, parce que la richesse de la France, on ne se cache pas qu'arrive aussi de ça. Donc, qu'on le veuille ou pas, on tire tous et toutes des avantages par rapport à cette histoire des colonisations. Donc je peux comprendre que ça peut générer la peur de faire n'importe quoi qui pourrait être ressenti comme insultant par rapport à une autre culture. Pour moi, l'appropriation, c'est quand il y a spoliation. En latin, les Romains parlaient des traditions, quelque chose qui est donné, quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un d'autre, tradere. Mais tradere dans le sens de trahir, c'est de le donner à l'ennemi. Quand, dans notre pratique, on offre la matière qui nous arrive des siècles et des populations, c'est quand qu'on la donne à l'ennemi? C'est quand on commercialise, bien sûr. C'est qui l'ennemi? Pour moi, c'est clair. Moi, j'en fais ça aussi, un discours de classe et un discours politique. Ben, l'ennemi, c'est le capitalisme pour moi. C'est la culture marchande, c'est la culture de l'accumulation et c'est la culture de bouffer tout ce qui nous arrive et en faire du fric. Mais attention, parce que ça peut être très bien fait par un porteur d'une culture traditionnelle. Le jeune du village du Sud qui va partir dans le monde faire des tournées avec la musique de son village en la transformant pour faire des clins d'œil. Et j'en ai vu beaucoup, et c'est triste, des très bons musiciens se plier aux exigences de la scène, aux exigences du marché de la musique. Pour moi, c'est terrible, c'est triste, c'est humiliant même. Ça fait 10 ans que j'habite en France et déjà j'ai vu une évolution par rapport à ça. Il y a une résurgissance des chorales militantes, des chorales qui s'approprient du chant traditionnel. De plus en plus, dans les ateliers qu'on anime, il y a des jeunes qui sont très en rupture avec la culture patriarcale, mais surtout avec la culture du binarisme. Donc des jeunes qui ne se reconnaissent pas dans les genres. Donc on essaie d'évoluer aussi les définitions, la méthode pour... prendre en compte ça, on ne parle plus d'hommes et des femmes dans la chorale, on parle des petites tailles et grandes tailles, c'est la taille des cordes vocales. Qu'est-ce que ces personnes qui sont complètement en rupture avec certaines valeurs qui sont tellement présentes dans les valeurs de la culture populaire paysanne traditionnelle, qu'est-ce qu'elles viennent chercher dans ça? Et je suis content parce que évidemment il y a des valeurs qui sont reconnues, peut-être les mêmes valeurs que moi aussi je cherche, cette valeur de la capacité de coopération, de la capacité de se sentir communauté, de la capacité de créer en communauté et de vivre en communauté. Et voilà les tentatives qu'on fait ici aussi à Forcalquier avec ces veillées chantées. C'est la chose qui personnellement me manque depuis toujours, d'avoir une communauté qui partage, pas que un répertoire, mais une pratique de chanter ensemble, à l'unisson, à plusieurs voix, mais c'est la pratique d'arriver à savoir s'adapter à l'autre, écouter l'autre et s'adapter. Si je dois dire le valeur qui m'a vraiment conduit un peu sur la route du chant populaire, arrive dans le collectage des années 70, la famille Caprara a été enregistrée par un ethnomusicologue, Cesare Bermani. Dans le collectage, il y a un chant qui est chanté par le groupe des femmes de la famille. Elles sont en cuisine, elles chantent. Au début de la chanson, on entend qu'elles se plantent, sauf que ça continue. Elles se plantent parce qu'il y en a une qui se plante. Tout de suite, tous les autres s'adaptent. Il n'y a même pas un moment de réflexion, il n'y a même pas un moment où elle s'arrête à dire, elle sort en diapason, à dire « ah non, ce n'est pas la bonne tonalité », tout ça. Elles s'adaptent, elles n'ont pas fait les calculs dans leur tête de « alors c'était un dièse, ça devient un bémol, ça devient ça ». Non, non, non. C'est une des valeurs de la culture paysanne. On s'adapte à celui ou à celle qui est restée en arrière, à la personne plus fragile de la communauté. Donc on s'adapte dans les rythmes, dans la justesse. Et la justesse, évidemment, devient une justesse relative. Et pour moi, le plus difficile, c'est de chanter avec des gens qui ont l'oreille absolue. Et je pense que c'est les gens qui ont l'oreille absolue aussi qui ont beaucoup de mal à chanter avec moi. J'espère qu'il y a des nouvelles générations qui en ont marre de la narration qui lui est offerte par la société du spectacle, par la société marchande. Mon illusion, mon espoir, c'est que ces personnes viennent chercher de la pratique artistique active et pas passive, communautaire et pas solitaire. Et le tentatif de retrouver une vibration qui était la même vibration qui était vécue par les générations qui nous ont précédés, c'est la seule liaison qu'on peut avoir parce que c'est des gens qui appartiennent à des générations qui n'ont pas pu laisser trace de leur histoire dans l'histoire. Donc si on veut retrouver, re-rencontrer ces personnes, on peut le faire. On n'a pas les mêmes muscles, on n'a pas les mêmes têtes, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas la même vie. Mais on peut s'approcher à ça. Et si on essaye aussi de travailler vraiment le timbre, le son, et donc de bouger de notre zone de confort, ce n'est pas une caricature, c'est une tentative de communion. Bien sûr, il faut avoir notion de tout ce qui est autour de l'objet qu'on est en train de manier.
Merci à Lorenzo Valera, à toute l'équipe des Veillées Chantées de Forcalquier. Merci à Lycelle Quiroz et à Manu Théron. Merci à Abel et Elio pour leur témoignage. Merci à Léa Chiquitou pour la lecture des extraits du guide pour les chorales sur la question de l'appropriation culturelle dans le chant. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et la musique, elle est à qui ? Chronique marseillaise et impertinente d'appropriation manifeste. Un podcast réalisé par Anaïs Vaillant et proposé par la FAMDT.